Et bonsoir à tous, c'est Sporama sur VO Afrique comme tous les lundis soirs. Merci de votre fidélité à VO Afrique. On est ensemble pour 25 minutes pour refaire le sport, parler de l'actualité sportive du week-end. On va entendre évidemment les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Vous le savez, comme chaque semaine, vous nous laissez vos messages sur notre page Facebook. Vous pouvez également nous appeler en direct. Le numéro de téléphone, toujours le même, le 001-202-205-26-33. 001-202-205-26-33. On va évidemment saluer nos intervenants ce soir, à commencer, à tout seigneur, tout honneur, évidemment, le Maroc, Casablanca, Amine Birouk qui est avec nous. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Le sport marocain qui sera à l'honneur évidemment ce soir. On va partir à Paris pour retrouver Amdine Sy qui est avec nous. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pino et bonsoir à tous les auditeurs de VO Afrique.
Amdine qui prend l'avion ce soir avec les Lions de la Teranga pour aller en Afrique du Sud. On va saluer également à Libreville Jules Valentin-Goué. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et voilà, Jules qui est avec nous, on fera signe quand on aura évidemment Thierry Kambundi, notre station partenaire Top Congo à Kinshasa. On va évidemment revenir, je le disais, sur cette finale de la Ligue des Champions. Une finale, on se souvient, les enjeux partout au match aller évidemment. Le Wydad Casablanca qui avait les cartes en main, on le disait, côté marocain, côté du WAC, on ne va pas jouer le 0-0, ce serait suicidaire. Et bien finalement, le Wydad Casablanca qui s'est imposé grâce à un petit but, une victoire 1-0 qui suffit à mettre fin à 25 ans de disette sur le plan continental. On va évidemment retrouver Amine. Amine, il y avait beaucoup d'attentes évidemment sur ce match. On le rappelle, il y avait aussi 10 000 policiers mobilisés. C'était une ambiance de feu face au grand Al Ahly qui ne décroche pas son 9e titre continental. C'est la fête pour les Marocains.
C'est la fête, c'est même l'euphorie. Il faut dire que pour les Wydadi, ça fait 25 ans que l'attente avait duré. Et puis pour les supporters en général du sport marocain, ça fait quand même 18 ans depuis le dernier sacre d'un club marocain en Champions League. Autant dire que l'attente était énorme, que l'expectative était positive après le nul ramené d'Alexandrie, un but partout. Mais il fallait gérer cette équipe de la Wydadi qui a joué son va-tout, notamment en première mi-temps. On avait vu des joueurs du Wydad assez contractés par l'enjeu pendant les 25 premières minutes de la partie, ratant tout ce qu'ils essayaient d'entreprendre face à une équipe égyptienne qui avait décidé de jouer l'attaque et d'en faire son arme principale. Il a fallu attendre quasiment la fin de la première mi-temps avec une première offensive à la 29e minute ponctuée par une frappe sur la barre pour voir les joueurs du Wydad rentrer dans la partie. Ils rentreront beaucoup mieux dans le match en deuxième mi-temps puisqu'ils se créeront les occasions les plus nettes et parviendront à atteindre leur objectif, c'est-à-dire marquer ce but qui suffit amplement à leur bonheur suite à un centre du meilleur joueur de la finale, Achraf Ben Sherhi, qui a offert un centre au cordeau pour Walid Karti, qui a inscrit un but de la tête. Après, il y a eu le barreau d'honneur des Égyptiens pendant les 20 minutes de la partie, mais le public a été formidable tout au long du match, tout comme les joueurs du Wydad qui se sont échinés à défendre la moindre parcelle de terrain ont suffi pour que le WAC remporte sa deuxième Champions League. Il s'agit du 6e titre du football marocain dans cette compétition, la plus prisée. Le premier remonte à 1985 avec l'équipe des Phares de Rabat. Et on remarquera que sur le plan statistique, à l'exception de l'Égypte qui a 14 titres, le Maroc est 2e ex aequo avec la RDC avec ses 6 consécrations, plus 6 finales perdues. Autant dire qu'il y a eu beaucoup de choses positives du côté de Casablanca. L'essai a été marqué, il va falloir peut-être le transformer en ce qui concerne le football marocain samedi prochain lors d'un Côte d'Ivoire-Maroc qui sent le soufre.
Alors on va en parler tout à l'heure, Jules Valentango évidemment, les Égyptiens qui ratent le coche, on aurait pu avoir le 9e titre qui serait un record pour évidemment Al Ahly, mais ça n'a pas marché sur ce match.
Oui, ça n'a pas marché, surtout que Al Ahly a imposé un combat physique en début de rencontre qui a un peu fait déjouer le WAC, mais très rapidement, le WAC était venu avec une option tactique positive en oubliant le score du match aller, a mis en place son jeu collectif plus technique et plus rythmé et utilisé très judicieusement les couloirs. Son 12e homme, bien sûr, le public, pour finalement prendre un titre qu'il a mérité. Le score d'un but à 0 est étriqué, mais je crois qu'au vu de la prestation des deux équipes, on aurait pu avoir un 3-2.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On rappelle évidemment le football marocain sur le toit du football africain. On suivra la deuxième coupe continentale. Évidemment, ce sera le tout-puissant Mazembe contre le Supersport United. Pour en parler, on va retrouver Thierry Kamboundi, Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Thierry, bonsoir.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Alors Thierry, on le disait, Mazembe qui va rentrer en piste, évidemment, après sa préparation à Rabat, pour tenter justement de conserver son titre dans la Coupe CAF.
Les Corbeaux ont clôturé le week-end leur stage de Rabat sur une défaite, malheureusement, contre une formation marocaine de deuxième division. Et ils ont perdu sur la note de 2-1, mais Pamphile Mihaïo s'est montré rassurant malgré cette défaite lors du troisième match de fixation. Il a dit qu'il y avait des leçons à retenir, il a passé des bons moments, deux bonnes semaines avec son équipe, ça s'est plutôt bien passé dans la perspective de cette finale. Ils ont regagné Lubumbashi aujourd'hui avec... les internationaux qui ont été rappelés à la sélection congolaise, zambienne, ivoirienne, etc., sont déjà partis répondre aux appels de leurs sélections respectives. Le Pamphile Mihaïo reste confiant quant à la finale du 19 novembre prochain, qu'il compte aborder de la meilleure des manières et prendre une option sérieuse avant le match retour prévu le 25 novembre prochain à Pretoria. Donc tout se passe bien, les joueurs qui étaient à l'infirmerie sont en train d'être récupérés et le groupe qui n'a pas été convoqué en équipe nationale va retrouver celui qui était resté à Lubumbashi pour poursuivre le travail comme le championnat n'a pas encore démarré en République démocratique du Congo.
Merci beaucoup Thierry, on repart sur évidemment Casablanca. Amine Birouk, que penser de ces déclarations après match du côté d'Al Ahly? Est-ce qu'on est plutôt mauvais perdant? On dénonce l'arbitrage du Gambien Bakary Gassama, une position de hors-jeu notamment sur le but des Marocains. On dit que le temps additionnel était trop court. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Amine?
Je suppose que le temps avait été donné dès la conférence de presse d'avant-match où l'entraîneur de l'équipe égyptienne avait évidemment évoqué l'arbitrage. Il faut juste revenir aux faits. Ceux qui ont récusé l'arbitre de la finale, qui devait être algérien, sont bien les joueurs, les dirigeants de l'Ali. Monsieur Gassama a été aussi l'arbitre du dernier Égypte-Congo. Et à l'époque, nos amis égyptiens s'étaient félicités de la justesse de son arbitrage et de son courage lorsqu'il avait décidé de siffler un pénalty à la 94e minute en faveur des Pharaons. En ce qui concerne le match, il n'y a pas eu d'erreur flagrante, hormis peut-être un hors-jeu qui n'aurait jamais dû être signalé en faveur de l'Ali ou au détriment de l'Ali à la 81e minute. Pour le but, les séquences au ralenti sont suffisamment éloquentes pour montrer qu'il y avait un défenseur de l'Ali qui couvrait Achraf Ben Sarri, peut-être pas celui qui était chargé de son marquage, mais un joueur qui était un peu à la traîne et qui a totalement déstabilisé son équipe. Reste deux faits de jeu qui sont quand même importants. Il y a eu des arrêts de jeu suffisamment longs. Il y a eu également une interruption de la rencontre à cause des fumigènes. Et je pense que Louis Dad risque de prendre très cher en ce qui concerne cette interruption de match. Peut-être que c'est la seule erreur notable de M. Bakary Gassama. Les dirigeants égyptiens évoquent également le fait qu'ils soient préposés pour officier lors de Côte d'Ivoire-Maroc. Mais si on se réfère à ce qui a été fait pendant la partie, à la façon avec laquelle il a dirigé le match, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'erreur flagrante au point de susciter une réclamation de la part des Égyptiens. Mais vous connaissez un peu les médias du Caire, la victoire était impérative pour l'Ali, pour eux c'était la victoire ou rien du tout, et aujourd'hui on a l'impression que les Égyptiens ont tout simplement oublié qu'il fallait être fair play et qu'il faut savoir gagner, il faut également savoir perdre.
Merci beaucoup Amine, on va marquer une première pause dans ce sport amant, on vous retrouve après ce jingle. Allez, vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VO Afrique. On va prendre la direction de Paris. On va retrouver évidemment Amdine Sy qui est dans les bagages, les formalités douanières. Amdine Sy qui s'envole évidemment avec la sélection sénégalaise pour ce match tant attendu. Cette double confrontation face à l'Afrique du Sud. On le répète évidemment, une victoire sénégalaise qui enverrait les Lions de la Teranga sur cette Coupe du Monde 2018. Quelles sont les dernières infos dont vous disposez, Amédine?
Merci Nicolas Pinot. Les dernières infos
c'est le rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal à Paris sur les 25 jours que Ali Cissé a convoqué. Les 23 ont répondu présents. Il ne manque que deux éléments. L'un, Khadim Ndiaye, qui est le gardien de but du Oréa de Conakry, qui était en Guinée, va directement sur Polokwane, alors que Lamine Gassama, qui joue en Turquie, va rejoindre le groupe. Donc, tout est fin prêt. Les Lions se sont entraînés cet après-midi sur le complexe sportif du stade de Roissy. Et l'entraînement s'est très bien passé. Ça s'est passé dans une très bonne ambiance et le moral est fin prêt. Les Lions sont prêts pour aller à Polokwane remporter les 3 points de la victoire pour permettre au Sénégal de jouer sa deuxième Coupe du Monde, puisque depuis 2002, le Sénégal n'est plus qualifié en Coupe du Monde. Donc tout est fin prêt et les Lions affûtent leur griffe. Nicolas Pinot.
Inch'Allah, comme on dit à Dakar. Merci beaucoup. Amdine, vous restez avec nous. On va prendre un auditeur malien qui nous appelle. C'est Brahima Doumbia. Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir à tous les de la VOA.
Alors vous, hein, évidemment, le Mali éliminé de cette course au Mondial, mais vous, vous pensez que le voisin sénégalais peut se qualifier en Afrique du Sud, hein?
Effectivement, je pense que le Sénégal a sa dernière carte. Je pense que si les Sénégalais se mettent en tête qu'ils peuvent, je pense qu'ils pourront quand même battre cette équipe sud-africaine. Il faut le savoir, malheureusement, lors du cas précédent où il y a eu, si vous voulez, cette erreur arbitrage, je pense que cela ne va pas se répéter. Je pense que si tout se déroule dans les bonnes conditions, le Sénégal, quand même, avec ses atouts, avec tous ses joueurs, tous ses potentiels, quand même, je pense qu'ils pourront quand même mener au moins à un score de 1 ou 2-1, quand même, je pense quand même.
Oui, en tout cas, les Burkinabés, merci beaucoup, hein, Brahima, de nous avoir appelé depuis le Mali. En tout cas, les Burkinabés qui vont suivre, hein, évidemment, les résultats de cette double confrontation face à l'Afrique du Sud. Et puis, évidemment, l'autre gros match de ce week-end africain de football, ce sera Abidjan, au stade Oufouette Boigny, où partira, évidemment, dans quelques heures, Amine Birouk. Amine, évidemment, cette confrontation Maroc-Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire-Maroc, la finale du groupe chez les Ivoiriens qui ont longtemps fait la course en tête et finalement qui se font manger petit à petit par les Marocains qui arrivent à passer devant. Est-ce qu'on va jouer, selon vous, Hervé Renard? On connaît l'histoire, évidemment, l'ancien sélectionneur des Ivoiriens qui va certainement assassiner, hein, les espoirs ivoiriens sur ce match. Vous pensez qu'on va jouer l'offensive côté Marocain, on va essayer de tout blinder pour un 0-0. Comment vous voyez la physionomie de ce match?
Jouer le nul, le chercher ou le rechercher dès la première minute serait suicidaire du côté marocain. Quoi qu'il en soit, l'équipe est en rassemblement à Rabat. Ils vont se préparer jusqu'à mercredi après-midi ici au Maroc avant de pouvoir débarquer à Abidjan. Et a priori, tous les joueurs seront fin prêts pour cette confrontation. Hervé Renard, on connaît sa philosophie, ce n'est pas quelqu'un qui spécule. Lors de la dernière CAN, on a vu que l'équipe avait entamé sa confrontation face à la Côte d'Ivoire dans les bonnes dispositions. Il fallait un nul pour le Maroc et une victoire impérative pour la Côte d'Ivoire. Les Marocains n'ont pas fermé totalement le jeu, ils ont même joué franchement et crânement leur chance, ce qui leur avait permis de l'emporter 1-0 et de sortir le tenant du titre. On est dans la même configuration à une différence près, c'est que tout se jouera à Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, devant 45 000 personnes. Aujourd'hui, d'après mes informations, ouverture de la billetterie en ce qui concerne le stade, beaucoup de citoyens, beaucoup de supporters des éléphants se sont pressés dès la première heure de la journée pour pouvoir disposer du fameux sésame. Le Maroc, où les résidents au Maroc devraient disposer de 3000 places. Il y a eu aussi une petite guéguerre froide entre les deux parties, puisque la partie ivoirienne ne voulait céder que 200 à 250 places. Finalement, il a fallu recourir à un arbitrage discret de la part de la FIFA pour pouvoir avoir une partie de supporters marocains qui vont se déplacer, qui ont obtenu des facilités, que ce soit en termes de transport, que ce soit en termes de prestations sanitaires pour pouvoir supporter leur équipe. Mais il est vrai que tout se passe sera sur le rectangle de jeu et que les heures qui précéderont la rencontre, que la préparation, que les dernières séances d'entraînement pourront nous éclairer sur la façon avec laquelle Hervé Renard va pouvoir aborder une partie où l'équipe de Côte d'Ivoire va disposer de son artillerie lourde. Face au Mali, plusieurs éléments offensifs des éléphants n'étaient pas là. Aujourd'hui, lors de la bataille d'Abidjan, il faudra compter sur la présence de Gervinho, sur celle de Zaha, sur celle de joueurs comme Max Gradel ou bien évidemment Kodja,
et c'est un peu toute la puissance de feu de la Côte d'Ivoire qui change de génération, qui n'a peut-être plus l'aura des trois dernières éditions de la Coupe du Monde, mais qui peut être suffisamment dangereuse pour l'emporter devant son public. Ce sera une finale à qui tout double. Le Maroc a la possibilité de tabler sur deux types de résultats, une victoire ou un nul, alors que du côté ivoirien, seule la victoire pourrait les ramener vers la Russie.
Ouais, les Ivoiriens qui étaient restés sur un 0-0 très terne, évidemment, à Bamako, qui les place évidemment dans cette situation plus que difficile. On va prendre un auditeur qui nous appelle depuis Nouakchott en Mauritanie, c'est Bokar. Bonsoir Bokar.
Bonsoir Nicolas.
Alors Bokar, évidemment, vous pensez évidemment que les Sénégalais non seulement vont se qualifier pour le mondial, mais vont faire mal en Russie 2018. Pourquoi ?
Bon, c'est que le Sénégal a une très grande équipe. Qui a des joueurs vraiment expérimentés et des joueurs de haut niveau qui jouent dans les meilleurs clubs européens, comme par exemple Sadio Mané qui est à Liverpool, Idriss Gana Gueye, et la défense aussi, ils ont en solide défense, et comme Kalidou Koulibaly qui évolue à Naples. Bon, c'est une très grosse équipe, c'est pas une très petite équipe, bon, qui a des joueurs vraiment expérimentés qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Bon, je sais que ça ne sera pas un match facile face à l'Afrique du Sud qui joue à domicile. Bon, ça ne sera pas facile parce que l'Afrique du Sud aussi peut se qualifier en remportant les deux matchs. Mais quand même, le Sénégal, il suffit de deux nuls ou une seule victoire pour aller au Mondial. Donc, j'ai l'espoir que les Lions de la Teranga peuvent vraiment aller en Russie 2018. Et s'ils arrivent à se qualifier aussi, ils peuvent aussi faire un grand mondial, bon, ou bien un mondial moins quand même, parce que c'est pas une équipe facile à affronter et qui est solide. Et c'est une équipe encore qui fait partie des meilleures équipes africaines actuellement. Donc, je pense que les Lions de la Teranga pour se qualifier, pour aller en Russie 2018.
Eh bien, Bokar, merci beaucoup de nous avoir appelé depuis la Mauritanie. On va poser la question à présent à Jules Valentin Ngoué à Libreville. Jules Valentin, on va revenir sur la confrontation, le choc, évidemment, au stade où Oufouet Boigny, évidemment, d'Abidjan, entre Ivoiriens et Marocains. Comment vous sentez les choses? Est-ce que les éléphants, finalement, vont rugir sur ce match contre les Lions de l'Atlas?
Oui, mais c'est un match très important et pour les deux équipes, puisque c'est une finale de groupe. Mais je dirais que la bonne dynamique est plutôt du côté du Maroc, qui, comme les autres équipes d'Afrique du Nord, carbure très bien depuis un an, depuis au moins la prestation lors de la Coupe des Nations au Gabon. Et donc, je crois que de ce côté-là, le Maroc est le véritable favori. Mais la Côte d'Ivoire a les moyens de jouer les pronostics à domicile et surtout compter sur son public et sur le côté mental pour venir à bout des Marocains. Mais pour nous les Africains, on aimerait que les meilleurs soient là-bas pour représenter l'Afrique afin de permettre au continent de conserver son quota ou alors de l'améliorer.
Alors on rappelle évidemment que l'Égypte et le Nigeria sont déjà qualifiés. On a évidemment une longueur d'avance pour le moment côté marocain et côté sénégalais en vue de la qualification. Il y a une autre équipe évidemment qui est au bord de cette qualification, c'est la Tunisie. La Tunisie qui compte actuellement 3 points évidemment d'avance sur la République démocratique du Congo. On le répète, qui a vendangé à Kinshasa, tout espoir de pouvoir se qualifier. Thierry, vous le disiez, les joueurs congolais se préparent, mais encore une fois, il faudrait un scénario incroyable face à une Libye et une Guinée déjà éliminées pour pouvoir avoir des léopards qui puissent se qualifier. On n'a pas totalement enterré ses espoirs côté congolais à Kinshasa. Thierry, est-ce que vous nous entendez? Alors on va réessayer avec Thierry Kamoudi. Est-ce que Thierry, vous nous entendez à Kinshasa? Thierry, alors on me fait signe en régie que Thierry Kamoudi n'est pas joignable actuellement. On va revenir évidemment avec vous, Jules Valentin. Oui, Jules Valentin, on le disait, la Tunisie qui y est presque, évidemment, les Aigles de Carthage qui feraient leur retour en Coupe du Monde sur justement une double confrontation qui leur a été favorable, évidemment, face au Lion de la... face justement au Léopard.
Oui, il faudrait que les Tunisiens s'éliminent eux-mêmes pour que, disons que les données changent. Mais je crois que c'est une équipe qui rassure depuis le mois de janvier et qui, ma foi, n'est pas première au classement africain pour rien. Donc, je crois que là, nous aurons des matchs bien contrôlés par les Nord-Africains, un match bien contrôlé par les Nord-Africains qui tiennent à être à la Coupe du Monde.
Merci beaucoup. On suivra évidemment toutes ces confrontations africaines ce week-end sur VOA Afrique. Allez, on va parler à présent de l'épreuve, évidemment, reine du cyclisme africain qui s'est achevée ce week-end. C'est évidemment le Tour du Faso, qui a été remporté par un Marocain, Salah Eddine Rahouni, qui remporte évidemment cette 30e édition au général devant l'Érythréen Moussi Simon et le Burkinabé Mathias Sorgho. Pour en parler, on retrouve Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous.
Alors, on le disait, sur ce tour, notamment, la première victoire d'étape burkinabé a mis beaucoup de temps à se décider, grâce à notamment Abdulaziz Nkema.
Oui, tout à fait, Abdulaziz Nkema qui a réussi à arracher la victoire d'étape, la seule d'ailleurs du Burkina, lors de l'étape Banfora Bobo Dioulasso. C'est une équipe burkinabé un peu perdue dans cette course-là qu'on a retrouvée parce que le niveau était quand même assez relevé par rapport aux éditions précédentes et donc je me dis que c'est ce qui véritablement n'a pas aidé les Burkinabés parce qu'ils ne se sont pas très bien préparés, il faut le dire aussi. Et sur l'une des étapes, par exemple, il y a Abdulaziz Nkema, je crois, l'étape partie de Koudougou, Abdulaziz Nkema, début Koudougou bien sûr, Abdulaziz Nkema qui a eu une crevaison bien sûr 5 fois sur la même étape. Et donc on se pose des questions sur la qualité de la pneumatique bien sûr des montures des cyclistes burkinabés. Et donc c'est...
Ah, il y a des difficultés.
C'est pas sérieux, quoi.
Il y a des difficultés techniques. On va saluer quand même l'Allemand Benjamin Stoder, qui a remporté 5 victoires d'étape. Et on parle avec vous du Marocain Salah Eddine Rahouni, évidemment, Amine Birouk, je vais y arriver. Belle victoire pour ce 30e tour du Faso. Et une victoire marocaine. Le sport marocain à l'honneur ce week-end.
C'est un week-end marocain.
Tout à fait. 4e victoire d'un Marocain au Tour du Faso. Il y a eu des victoires en 2002, en 2009, en 2007 et en 2009. Le Maroc avait brillé par son absence l'année dernière. Cette année, ils ont été au rendez-vous avec une équipe totalement dévouée autour de son leader Salah Eddine Rahouni qui a participé au dernier championnat du monde. Il avait metté de l'échappée matinale de ce mondial qui s'était disputé en Norvège. Il avait été rattrapé à mi-course, mais ça avait permis quand même de constater son état de forme. Le Maroc qui commence à exporter des cyclistes vers le professionnalisme avec notamment un cycliste qui est dans une équipe World Tour, l'équipe UAE, et puis vous avez aussi l'habitude d'être présent dans plusieurs courses, que ce soit le Tour du Faso, le Tour de Côte d'Ivoire, le Tour du Cameroun, le Tour du Rwanda, et aujourd'hui on peut se satisfaire de cette victoire. Le Marocain a contrôlé le Tour du Faso, il a pris le maillot jaune dès la deuxième étape, il a cédé volontairement puisqu'il fallait quand même réserver quelques forces avant de reprendre lors de l'étape la plus longue et la plus difficile, la 8e. Victoire avec 25 secondes d'écart. Il gagne également le maillot des points chauds, le maillot de meilleur jeune, donc il a moins de 25 ans. Et puis le Maroc l'emporte par équipe. Ça veut dire que c'est une équipe assez forte qui s'est déplacée vers cette prestigieuse épreuve qui en est à sa 30e édition.
Merci beaucoup, évidemment, Amine Birouk. On va vous parler, évidemment, d'Andrea Pirlo pour terminer ce Sporama. Évidemment, le champion italien, champion du monde 2006, vainqueur de 2 Ligues des Champions, de 6 Scudetti, le Scudetto, le championnat d'Italie, 2 avec le Milan AC, 4 avec la Juventus de Turin. Eh bien, Andrea Pirlo, 38 ans, tire sa révérence après, évidemment, l'élimination en demi-finale de la MLS avec son club du New York City Football Club. Un mot également pour vous dire que ça va mal évidemment du côté de Cleveland en NBA avec une nouvelle défaite qui a été enregistrée ce week-end, la 5e défaite en 6 matchs. Ça va pas bien évidemment pour les Cavaliers. On va évidemment saluer tous nos intervenants, à commencer par celui qui est revenu en ligne à Kinshasa, Thierry Kamboundi. Thierry, bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas et à lundi prochain.
On va saluer également celui qui est à Paris, qui va prendre l'avion ce soir, Amdine Sy. Bonsoir Amédine, bon vol.
Merci Nicolas et à lundi prochain pour un autre numéro de Sporama.
Un coucou également à Jules Valentin-Goué à Libreville avec nous. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Et enfin, le dernier, à tout seigneur, tout honneur, le sport marocain à l'honneur, Amine Birouk avec nous depuis Casablanca. Bonsoir Amine et bon voyage à Abidjan.
Merci Nicolas, bonsoir et à la semaine prochaine.
On va remercier également Yacouba Ouédraogo qui était avec nous dans ce studio. On va remercier Georges Léonard Sagno à la mise en onde, Nicolas Pinot à la présentation. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h PU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.